Pour essayer de parler de la virginité, ou pas d'ailleurs, de Marie, deux textes classiques. Le premier se situe dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. » Ce qui signifie « Dieu avec nous ». Il se nourrira de lait fermenté et de miel, quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Et puis le second texte est le texte le plus classique du récit de l'Annonciation de la naissance de Jésus. Se situe dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produit-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile, et dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors ce soir, je ne vais pas chanter, on va attaquer directement la prédication. Je pense que je vais essayer de réussir à parler jusqu'à la fin du culte. Et je pourrais me taire après jusqu'à au moins après-demain. Donc, Marie est-elle vierge ? C'est le thème de cette prédication. C'est une question juste, certainement. De toute façon, il est toujours bon de se poser des questions. Et justifiée, déjà, parce que je voudrais essayer d'enlever les fausses idées. Parfois, certains protestants et certains catholiques me disent, mais nous, enfin les protestants, vous, quand c'est les catholiques qui parlent, vous ne croyez pas à la virginité de Marie. Alors j'essaye d'expliquer que, eh bien, si. Après, ça reste à interprétation, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. En fait, les protestants ne remettent pas en cause la conception virginale du Christ. Ce qu'ils vont remettre en cause, c'est le fait que Marie soit restée vierge toute sa vie. Pour nous, Marie, après, c'est une femme de bien, certes, mais, et puis après tout, c'est pas certes, comme elle est une femme de bien, eh bien, elle a continué sa vie normalement avec son mari, son époux Joseph, elle a eu de nombreux autres enfants, et on voit bien d'ailleurs que dans la Bible, Jésus a des frères et des sœurs. Ça, c'est peut-être ce qui nous distingue. Et puis, il y a une autre idée fausse, c'est l'histoire de l'Immaculée Conception. Les gens confondent souvent la naissance virginale de Jésus et l'Immaculée Conception. Alors l'Immaculée Conception ne s'intéresse pas tant à la naissance du Christ qu'à la naissance de Marie elle-même. C'est un dogme assez récent de l'Église catholique, puisqu'il a 160 ans, je crois que c'est 1854, par une bulle du pape, que le dogme a été entériné. Mais en fait, dans la tradition catholique, ça remonte au père de l'Église. Ce dogme, que nous dit-il? Il nous parle de la conception de Marie, que Marie, déjà, aurait été conçue sans le péché originel. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que pouvoir être conçue sans le péché originel. Je pense que quand même, derrière cela, chez les pères de l'Église, il y a la notion que Marie aurait été elle-même issue d'une conception virginale. Je ne sais pas si sa mère, Anne, a eu des relations avec son père Joachim. De toute façon, tout cela, pour nous, les protestants, je ne veux pas non plus dire que cela n'a aucune valeur, ben, en fait, on ne le trouve que dans la tradition. Il y en a, c'est en début presque, dans le proto-évangile de Jacques, mais le proto-évangile de Jacques n'est pas dans la Bible, donc on ne s'intéresse pas tellement à la conception de Marie. De toute façon, comme je vais essayer de le montrer, finalement, Marie, elle est comme tout le monde, et c'est bien. Marie, la petite Marie, elle est un peu plus que tout le monde tout de même, parce qu'elle a porté Jésus. Mais au départ, je pense que Marie est une petite jeune fille qui vit là-bas, en Judée, et puis qui a cette visite étonnante. Et 9 mois plus tard, eh bien, elle aura cet enfant. Mais Marie elle-même n'a pas forcément de distinction au départ avec les autres. Et puis, est-ce qu'on est meilleur parce qu'on est né d'une union entre un homme et une femme ou d'une naissance virginale? J'en suis pas sûre. Et c'est ce qu'on va essayer de voir d'ailleurs pour Jésus. En tout cas, l'Immaculée Conception, c'est pas du tout la naissance virginale du Christ qui va en fait nous intéresser aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai essayé de faire cette distinction, la question reste tout de même entière. Marie est-elle vierge, ou bien l'histoire de la naissance de Jésus qui nous est racontée dans 2 évangiles uniquement, c'est-à-dire chez Matthieu? Alors Matthieu, c'est plutôt le point de vue de Joseph, et chez Luc, du point de vue de Marie, puisque chez Matthieu, l'ange s'adresse à Joseph pour lui demander de garder Marie et de ne pas la renvoyer. Et Joseph, qui est un homme de bien, évidemment, ne renvoie pas Marie. Ici, le texte est un peu plus explicite et il nous raconte l'histoire de cette petite jeune fille qui reçoit la visite d'un ange qui vient lui annoncer une naissance étonnante. Alors, il y a de nombreux interprètes, de nombreuses interprétations sur la virginité. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'aise avec cela. Pourquoi une vierge? Et pourquoi croire vraiment à cette histoire? Alors, je vais essayer d'abord de donner des arguments qui iraient plutôt contre, et puis après, je ne vais pas essayer de donner des arguments pour. Je vous dirai ce que je pense, moi, mais ça, c'est autre chose, vous n'êtes pas obligé de penser pareil. Mais je vais essayer de déplacer le problème, parce que je pense que le problème essentiel, ce n'est pas de savoir si Marie était vierge ou pas, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Et pourquoi ça nous est raconté comme ça? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? En réalité, dans ce texte, il y a bien plus que cette histoire de conception virginale, et c'est ça qui nous rejoint dans notre quotidien, dans notre aujourd'hui. Alors, sur la question de la virginité de Marie, on a beaucoup écrit et on a dit, et on le dit encore d'ailleurs, et il y a des gens qui sont persuadés que mettre en avant ces arguments remettent en cause la virginité de Marie. D'abord, le premier point, c'est un petit problème de traduction. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure le passage d'Ésaïe qui annonce la venue d'un enfant qui serait né d'une vierge. Alors, chez Ésaïe, quand Ésaïe s'adresse au peuple, il s'adresse d'ailleurs au roi, il annonce au roi qu'il va avoir un enfant avec une jeune fille. Voilà. Il ne s'agit pas d'une vierge dans le texte hébreu, mais d'une simple jeune fille. Et ça a été lu à la fois par le judaïsme, puis par le christianisme, comme étant l'annonce de la naissance du Messie. Ce Messie qui vient dans la lignée de David. Et Ésaïe s'adresse à un roi descendant de David. Et Jésus, d'ailleurs, est mis dans la généalogie, dans la lignée de David. Il est fils de David aussi. Mais ce terme de jeune fille est assez important, parce que si dans le texte hébreu on entend bien jeune fille, le mot alma, il n'y a aucune ambiguïté, eh bien la Bible qui va être traduite en grec assez rapidement, dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, les auteurs du Nouveau Testament probablement lisaient la Bible en grec et non pas la Bible en hébreu. Et dans cette Bible grecque, dans ce texte grec de la Bible, de l'Ancien Testament, eh bien, on a traduit Alma par Parthénos, qui signifie vierge. Exactement, c'est une très jeune fille qui est déjà fiancée, donc a priori, on pense qu'elle est vierge. Mais il y a des débats là-dessus. Mais en effet, oui, Parthénos peut signifier vierge, qui n'a eu aucune relation sexuelle. Donc, quand les auteurs du Nouveau Testament écrivent, ils ont bien évidemment en tête ces textes qui annoncent la venue du Messie. Ils sont emplis des textes de cet Ancien Testament, de cette Bible hébraïque. Et évidemment, ça les arrange bien, c'est un peu cru ce que je dis, ça les arrange bien de raconter que Marie est en ce moment, on reprend le même thème, une parthénos. Je ne suis pas sûre qu'ils aient repris ce terme uniquement pour cela, mais bon. Donc on voit que là, c'est en quelque sorte pour confirmer la prophétie d'Ésaïe. Ça ne me convient pas très bien, vous pouvez bien le penser, parce que ces confirmations de prophétie, d'abord, elles m'agacent un peu. Je ne pense pas que les prophéties doivent être confirmées. Les prophéties, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, elles ont été écrites pour parler d'une actualité, et elles parlent encore de notre actualité aussi. C'est-à-dire que le Messie, il est peut-être venu, mais nous pouvons encore l'attendre. Et donc, à nouveau. Donc, la prophétie n'a jamais de fin. En même temps, elle est très actuelle, elle s'inscrit dans un contexte bien actuel, qui est celle du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, peut-être que l'avenue du Christ est l'accomplissement de cette prophétie, mais pas l'accomplissement complet. En fait, la prophétie, on peut l'entendre encore aujourd'hui. Donc, cette hypothèse, c'est vrai, ne me convient pas très bien. Je ne sais pas ce qu'avaient en tête les auteurs de l'Ancien Testament, les auteurs du Nouveau Testament, probablement ce texte, mais ils ont essayé aussi d'ajouter quelque chose. La deuxième chose qui pourrait être convaincante, c'est que ces textes de la naissance de Jésus, eh bien, ont été écrits très tardivement. Vous savez, souvent, le début des livres, eh bien, on les écrit une fois que le livre est déjà terminé. Finalement, l'introduction, on l'écrit une fois que tout le reste est fini. C'est vrai pour la Bible en général. Les deux premiers chapitres, ou les trois premiers chapitres de la Genèse ont probablement été écrits bien après, une fois que l'Ancien Testament était pratiquement terminé. Le prologue de Jean, qui ne nous parle pas de la naissance de Jésus, mais enfin, qui met en scène la venue du Christ, a été écrit une fois que l'évangile de Jean est terminé. Et là aussi, ces récits de naissance ont probablement été écrits tardivement. Donc, ça remettrait en cause leur véracité. Bon, c'est un argument comme un autre. Mais si on commence à refuser tous les textes parce qu'ils ont été écrits tardivement, il ne reste plus grand-chose dans la Bible. Hein. Donc, et puis, c'est une espèce de romantisme, à mon avis, qui fait qu'on pense que les textes les plus anciens sont les plus près de ce qui a été écrit et les plus justes. Moi, je ne pense pas. Je pense que la Bible, elle nous arrive aujourd'hui telle que, et que nous avons à la recevoir telle que. Ça n'empêche pas de faire de la critique historique, de savoir un peu quand ça a été écrit, par qui. Tout ça, c'est très intéressant. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'elle nous arrive comme ça, et que finalement, ces textes de la naissance de Jésus, eh bien, ils sont là, et nous sommes invités à les lire et les interpréter. Et on aurait bien tort d'ailleurs de s'en passer. Donc, tous ces arguments, en fait, vous le voyez, je ne les trouve pas très convaincants. Je ne les trouve pas convaincants parce que, en fait, on cherche en quelque sorte à désavouer ces textes pour essayer de se sortir de quelque chose qui nous pose problème. C'est vrai qu'une telle naissance miraculeuse, ce n'est pas quelque chose auquel je peux croire comme ça. Mais peut-être que justement, ce n'est pas ce qui m'est demandé. Mais la Bible, il faut bien se rendre compte de cela, c'est ni un traité de physiologie, ni un traité de gynécologie. Donc, ce texte-là, il n'est pas là pour nous raconter exactement ce qui s'est passé entre Marie et Joseph, et exactement ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus. Il est là pour nous raconter, en réalité, autre chose. Et puis, pour nous amener à déplacer la question. Parce que la question n'est pas tellement de savoir si Marie était vierge, même si c'est difficile à croire, parce que qu'est-ce que ça nous apporte de plus de savoir aujourd'hui que Marie serait vierge? Qu'est-ce que ça me dit de plus? Est-ce que ça change et la nature de Marie, et la nature du Christ, et la nature de ma foi? En réalité, pas vraiment. Moi, je pense qu'il y a des vides, il y a des blancs dans ce texte. Il y a du mystère dans ce texte. Et que, après tout, croire, c'est aussi cela. C'est accepter, eh bien, parfois l'inacceptable, l'incompréhensible. Pas essayer de comprendre à tout prix et d'expliquer à tout prix. Surtout que certains ont essayé d'expliquer. Et alors là, je trouve que c'est encore plus étonnant. C'est-à-dire que, bon, ils sont très croyants, je ne veux pas du tout remettre en cause leur foi, mais certains disent, Marie, vous ne pouvez pas être vierge, alors comment est né Jésus ? Jésus aurait peut-être, enfin Marie aurait peut-être été violée, et donc Jésus serait l'enfant d'un viol. Oui, je vois, mais c'est une théorie. Et alors, Joseph, dans sa grande bonté, mais on voit qu'il est très bon de toute façon, déjà dans l'Évangile, l'aurait accepté pour qu'elle ne soit pas soumise à la honte, puisque, et ça c'est une vérité de tout temps, les femmes violées sont avant tout des victimes, c'est de leur faute en quelque sorte, elles sont mises au banc de la société alors qu'elles sont des victimes. Je ne suis pas du tout convaincue par ça, d'autant plus que finalement, ce type d'explication s'appuie sur une certaine véracité du texte. Donc, pourquoi on nous aura raconté cette histoire de virginité alors qu'il se serait passé tout à fait autre chose? Donc, j'aime garder le mystère. J'aime garder aussi et entendre ces textes parce que ces textes sont pas c'est pas des explications physiologiques, comme je l'ai dit, mais ils sont d'une grande beauté et ils sont d'une grande poésie. Et je pense que la poésie et le langage de la foi. J'en suis convaincue. Le poète va réussir à dire l'indicible, le mystère de cette incarnation. Parce que c'est bien un mystère sur même qui est la personne du Christ et comment il arrive là. Ça aussi c'est un mystère. Et les peintres ne s'y sont pas trompés. Les peintres, je pense particulièrement aux peintres italiens du XVe siècle, qui ont tant et tant représenté cette annonciation de manière si belle. Ils sont même allés jusqu'à, et ça c'est intéressant, jusqu'à inventer des calculs géométriques, s'appuyant sur les mathématiques, pour inventer cette perspective, pour mettre en scène cette annonciation, cette rencontre entre l'ange Gabriel et Marie. Les peintres, donc, ne s'y sont pas trompés. Ils avaient pour une autre christologie. Pour eux, la Vierge était la mère de Dieu, donc le Christ était l'incarnation de Dieu. Alors là aussi, ça mériterait une autre prédication, pour savoir qui est vraiment la personne du Christ. Parce que, en réalité, dans ce texte, il nous en est dit quelques ébauches, mais finalement, ce qui nous est dit aussi, c'est qui nous sommes, nous. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce texte. Et là, je vais déplacer la question. La question, c'est pas tant de savoir si Marie est vierge ou pas. Moi, je pense que, comme il est dit à la fin, rien n'est impossible à Dieu. Alors, Marie était peut-être vierge. Ça ne me dérange pas du tout, en réalité. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est inexplicable. Et dans nos vies, il y a plein de choses inexplicables. Alors, après tout, oui, Marie est peut-être vierge. Mais ça me gêne aussi un peu, et pas tellement, c'est pas le miracle qui me gêne, c'est le fait de mettre en scène justement la personne d'une femme qui est vierge, comme si elle était meilleure qu'une autre. En réalité, et ça c'est la tradition qui veut ça aussi, on a fait de la virginité comme quelque chose d'indispensable pour les femmes. En gros, soit on est mari, soit on est moins que rien, en quelque sorte. Ça c'est la tradition qu'a fait. Or, la tradition donc a fait de Marie quelqu'un de méritant. Elle est méritante entre autres par sa virginité. Et ça, oui, ça me dérange. Alors, et d'ailleurs, le texte ne nous dit pas du tout ça. Parce qu'il est question de quoi dans le texte? Il est question de la foi de Marie. Et là, à mon avis, c'est là que ça nous rejoint. La tradition a fait d'elle une femme méritante. Mais lisez bien, écoutez bien le texte. Qu'est-ce qui nous est dit du mérite de Marie? Absolument rien. L'ange, quand il vient, lui dit « Toi qui es comblée par la grâce ». En fait, ce qui précède toute cette histoire, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Il lui dit « Tu es comblée par la grâce, tu as Dieu à tes côtés ». Et rien que cette annonce trouble Marie. C'est quand même étonnant. C'est pas « Elle sera troublée », mais finalement, moi, quand on lui dit qu'elle va être enceinte, « Oui, ma foi, comment c'est possible ?» Mais bon, on ne nous dit pas qu'elle est troublée. Elle est troublée parce qu'elle fait cette expérience de l'amour de Dieu. D'un seul coup, elle découvre à travers les paroles de l'ange, ce dialogue, que Dieu l'aime. Eh bien oui, ça peut nous rejoindre, nous, dans nos vies. En effet, de faire l'expérience de l'amour de Dieu, d'apercevoir qu'on est aimé alors qu'on n'a aucun mérite au départ. Eh bien oui, cela est bouleversant. C'est tellement bouleversant qu'elle a peur. C'est quand même pas rien. Elle a peur parce que Dieu l'aime. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet amour de Dieu? C'est la question qui se pose à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec l'amour de Dieu? Est-ce que ça nous fait peur ou est-ce que ça nous met en route comme Marie? Cet amour, on va la mettre en route. Elle doute au début, elle a peur, mais l'histoire va pouvoir continuer et l'ange va pouvoir continuer à annoncer une naissance des plus improbables. Mais la Bible, ce n'est qu'une succession de naissances improbables. Il n'y a que ça. Des femmes stériles, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, que Dieu va combler dans leur vieillesse, comme Sarah, que Dieu va combler même dans l'âge normal de la procréation, comme d'autres femmes. Tant de femmes stériles, pourquoi? Pourquoi la Bible met-elle en scène toutes ces stérilités, tous ces empêchements aussi à la procréation? Parce qu'il y a d'autres femmes qui vont s'arranger autrement, et les unes vont coucher avec leur père, les autres vont se déguiser en prostituées, tout ça pour avoir des enfants. Donc on voit que tout est fait dans la Bible pour que la procréation puisse arriver. Et la procréation, c'est aussi la fécondité en général d'ailleurs. Je voudrais quand même signifier que dans la Bible, il n'est pas que question, quand on parle de procréation et de fécondité, que de chair, il est question aussi d'esprit. Mais j'y reviendrai. Tout est mis en œuvre. Pourquoi? Et puis à la fin, Marie aussi. Alors vous me direz, c'est parce que les grands hommes, eh bien, faut qu'ils soient nés de manière un peu différente de tout le monde. C'est vrai. Finalement, dans toutes les civilisations, eh bien, les grands hommes ne sont pas tout à fait comme tout le monde. Mais toutes ces naissances improbables aussi me rappellent que chaque naissance est un miracle. On a l'impression que la nature, c'est naturel d'accoucher, d'avoir des enfants et tout ça. C'est pas très naturel, d'ailleurs les femmes stériles, il y en a encore, savent très bien que c'est pas très naturel. Que dans chaque naissance, même quand tout se passe bien, surtout quand tout se passe bien, il y a du miracle. Chaque naissance est miraculeuse. Chaque naissance est un cadeau, est une grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est cela aussi. Et puis, la fin du texte est tellement beau. Lorsque l'ange lui dit « L'Esprit viendra sur toi » et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, mais il ne faut pas croire que ça parle que de la naissance du Christ. Ça parle de notre naissance à nous tous. Parce que je pense que, justement, pour être pleinement humain, on a besoin de cette part de l'Esprit. Et que la naissance d'un être humain, ce n'est pas qu'une histoire. C'est déjà merveilleux quand c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Mais ce n'est pas que ça. La naissance, c'est peut-être, et même peut-être avant tout, la naissance de l'Esprit. Dieu, lorsqu'il a créé l'humain, pour le rendre pleinement humain, a dû souffler sur la terre, sur la poussière, pour que l'humain devienne pleinement humain. Eh bien, j'en suis persuadée, pour être pleinement humain, nous avons besoin, nous aussi, d'être couverts, d'être fécondés par cet Esprit de Dieu. C'est d'ailleurs ce que reprendra Jean dans son dialogue, l'évangéliste Jean, entre Jésus et Nicodème. Il explique qu'il faut naître à nouveau. Alors lorsque Jésus dit ça, Nicodème se demande comment lui, un homme, est-ce qu'il pourrait rentrer dans le ventre de sa mère? C'est bien que ça, c'est impossible aussi. Jésus leur lui explique tout à fait autre chose. Il faut naître d'esprit. En effet, Jésus est pleinement humain et pleinement divin. Il a été fécondé tout au long de sa vie par cet esprit. Mais nous aussi, nous pouvons être demandés et recevoir l'esprit de Dieu pour être pleinement humain. C'est-à-dire qu'être pleinement humain, c'est avoir cette parcelle, cette étincelle de l'Esprit Saint en nous. Cet Esprit Saint, nous pouvons de temps en temps nous arrêter et nous laisser féconder par lui. Pour nous, pour nos enfants aussi, nous pouvons. Après tout, chaque naissance, comme je le disais, est miraculeuse. Et si nous voulons que nos enfants aussi soient pleinement humains, eh bien, il nous faut aussi que nous aussi être fécondés par l'Esprit Saint. Aucune naissance, en réalité, est possible sans cet Esprit Saint qui nous féconde et qui nous couvre. D'ailleurs, vous savez, ce verbe « couvrir », il a une connotation sexuelle, bien évidemment, dans la Bible. Mais c'est aussi le verbe qui va accompagner tout au long de l'Exode, dans cette nuée qui suit le peuple d'Israël dans le désert, puis après, jusqu'en terre promise, eh bien, c'est le verbe « couvrir » qui est employé aussi. C'est le verbe « couvrir », c'est la manifestation de la puissance de Dieu, en réalité. C'est peut-être une histoire avec une connotation sexuelle, mais c'est avant tout la manifestation de la puissance de Dieu. Ainsi, dans cette histoire, Luc désire nous montrer à quel point Dieu attend cet enfant, ce petit enfant d'ailleurs, ce Christ qui va se révéler non pas comme un roi et comme un messie, mais là, au cœur d'une histoire, dans une étable, à travers l'histoire de cette toute jeune fille qui a cru, qui a été capable de répondre en disant « Je suis la servante du Seigneur » et qui a cru malgré tout et contre tout, cette jeune fille qui a permis la venue au monde du Christ. Mais cette venue au monde du Christ, comme je l'ai dit, nous révèle nous aussi cette double filiation. Il est pleinement humain et pleinement divin, mais nous aussi nous avons cette double filiation. Nous sommes enfants de nos parents, enfants de chair, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu, Dieu qui vit et qui agit en nous. Amen.